France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La Cour des comptes rendait son rapport ce matin sur le budget de l'État 2024. Pas franchement de quoi nous rassurer, on le verra quant à l'espoir d'améliorer l'état des finances publiques. On en parlera également avec notre invité aujourd'hui, l'ancien premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud. L'actualité en France, ce sont également ces attaques nocturnes qui ont à nouveau pris pour cible l'institution pénitentiaire. Avec des droits de douane astronomiques, les échanges entre Pékin et Washington ont-ils atteint un point de non-retour? On se rendra en Chine et aux États-Unis. Enfin, on reviendra sur la signature cette nuit d'un projet de traité sur les pandémies. L'OMS parle d'un accord historique. Faire partager au plus grand nombre un diagnostic alarmant sur une situation jugée intolérable pour mieux faire passer la pilule de potentiels remèdes amers à venir, mais sans pour autant en donner une liste détaillée. Voilà peu ou prou résumé l'intervention hier François Bayrou. Un Premier ministre décidément en difficulté dans un pays toujours plombé par des finances publiques catastrophiques, le tout dans l'enfer de Matignon, comprenez, au risque de voir le traumatisme de la censure du gouvernement revenir hanter le débat public. Alors, tandis que François Bayrou prépare les esprits pour 2026, la Cour des comptes, elle, rendait son rapport donc ce matin sur le budget 2024. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le constat est à la fois sans appel et sans surprise. L'institution parle d'une année noire, mais plus encore elle insiste sur un gouvernement qui continue à piloter à vue, sans tenir compte de ses alertes.
Alors il y a du mieux, hein, dit Pierre Moscovici, avec le gouvernement actuel, mais pour l'exercice budgétaire 2024, c'est vrai, le premier président de la Cour des comptes reconnaît avoir hésité avant de certifier avec réserve et selon les termes consacrés des comptes de l'État, je cite, réguliers et surtout sincères.
Nous nous sommes posé des questions dans la mesure où, en effet, la prévision de croissance de l'an dernier, 1,4% quand le consensus était à 0,8%, était tout de même très très élevé. La sincérité, ça suppose la volonté de tromper. Je ne pense pas que des gouvernements cherchent à tromper les gens sciemment, ils peuvent se tromper eux-mêmes. Et je pense en effet que pour l'année 2024, nous avons été dans cette absence de crédibilité, cette incohérence.
Pierre Moscovici qui insiste sur le fait que c'est la 19e année de suite que les comptes de l'État sont certifiés avec des réserves qui portent cette année sur plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il menace clairement de ne pas accorder la certification de la Cour à la fin de cette année si ça ne change pas et vite. Parmi ses recommandations, remettre le réalisme économique et la prudence au cœur des finances publiques et engager des réformes structurelles de la dépense publique pour en finir avec les coups de rabot à court terme.
Je suis hostile à la transponeuse de M. Milei ou de M. Musk. Ce n'est pas notre modèle social, politique, démocratique. Je ne suis pas non plus favorable au rabot qui, en général, vient toucher les dépenses qu'il faudrait épargner, l'écologie, le travail ou le développement. Je pense qu'il est temps de procéder à ce qu'on appelle des revues de dépenses intelligentes qui permettent de faire des économies au bon endroit. Je pense que notre modèle social doit être préservé. Mais si nous voulons le préserver, de l'austérité aussi, il faut le réformer. Maintenant.
À savoir que Pierre Moscovici est aussi le président du Haut Conseil aux Finances Publiques, une institution indépendante qu'il voudrait voir jouer un plus grand rôle dans l'élaboration des prévisions si cruciales, on le sait, pour les finances publiques au moment où le monopole de Bercy en la matière est de plus en plus remis en cause.
Merci Camille Manière. Et pour continuer d'évoquer ce rapport, mais aussi ce qui pourrait encore évoluer dans la conception de nos finances publiques, invité à présent de la rédaction Didier Migaud, ancien premier président de la Cour des comptes, également ex-ministre de la Justice et co-auteur de la loi organique relative aux lois de finances. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Marie Viennot, chef du service éco de la rédaction. Bonjour Marie.
Bonjour Thomas, bonjour Didier Migaud. Donc Camille Manière vient de le dire, cela fait 19 années que les comptes de l'État sont certifiés avec réserve. Vous-même, donc ça veut dire que quand vous étiez président de la Cour des comptes, vous avez certifié avec réserve. Est-ce que ces réserves étaient de même nature ou est-ce que c'est aujourd'hui plus grave qu'à votre époque?
Non. Quand on raisonne d'ailleurs dans le temps, il y a moins de réserves aujourd'hui qu'il ne pouvait y en avoir hier. Donc ça veut dire qu'on progresse. Alors Pierre Moscovici met le doigt sur la question notamment des prévisions de recettes, de leur sincérité et il a raison. Mais il faut, c'est comme la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Je crois que nous avons progressé et le fait que la Cour des comptes fasse cet exercice permet à l'État de progresser aussi dans la fiabilité et la sincérité des comptes.
progresser parce qu'il y a cette haute autorité des finances publiques
qui n'existait pas. Et la Cour des comptes.
Alors, vous avez été l'artisan de la LOLF, donc loi organique relative aux finances publiques, qui a marqué un tournant, c'était au début des années 2000, dans la façon de présenter et de construire le budget de l'État. Les crédits sont désormais répartis dans 34 missions, action extérieure de l'État, enseignement scolaire, sécurité, agriculture, travail, etc. Elles-mêmes sont déclinées en programmes, il y en a 140 dans le budget 2025, et à chaque programme sont associés des objectifs et des résultats attendus. C'est ça la révolution de la LOLF, passée à une logique de résultats, et vous dites aujourd'hui que cette révolution a été détournée de son esprit initial. Alors, comment ?
En fait, elle n'a jamais été mise en œuvre. On n'est jamais passé d'une logique de moyens à une logique d'objectifs et de résultats. Et on peut constater que c'est beaucoup plus dur de changer les mentalités, les pratiques des différents ministères, de Bercy, mais y compris les ministères dépensiers, plutôt que de modifier la loi. À la limite, modifier la loi, c'est facile. Bon, il faut pouvoir entraîner. Mais qu'est-ce que nous avions voulu avec Alain Lambert, alors président de la Commission des Finances du Sénat ? Nous avions voulu, à travers cette nouvelle constitution budgétaire, renforcer les pouvoirs budgétaires du Parlement, augmenter la capacité de contrôle des parlementaires et puis passer d'une logique de moyens, logique d'objectifs, de résultats, responsabiliser les gestionnaires publics, faire en sorte d'avoir une logique de performance, d'efficacité, d'efficience. Le drame dans notre pays, c'est que nos politiques s'intéressent trop peu à l'exécution, à l'efficacité de la dépense publique, à l'efficience de la dépense publique. Donc on empile des dispositifs sans toujours interroger la pertinence de ce qui est fait.
Pourtant, il y a beaucoup d'évaluations, il y a beaucoup d'instituts qui font des évaluations.
On fait beaucoup plus d'évaluations. À un moment donné, on manquait beaucoup d'évaluations, on en fait beaucoup plus, on n'en tient pas compte.
Qui n'en tient pas compte alors ?
Personne. Personne n'en tient compte. Le Parlement ne s'en saisit pas suffisamment, à mon goût. Et puis, l'exécutif aussi ne tient pas toujours suffisamment compte aussi de ces évaluations. Il faut donc, du coup, vous êtes dos au mur par rapport à une situation des finances publiques qui se dégradent. Vous utilisez la technique du rabot, qui est quand même rabot indifférencié, d'ailleurs le plus souvent, qui est quand même la technique la plus inintelligente qui soit, la plus paresseuse et la plus stupide qui soit.
La plus court terme aussi, on a
et pas... Et la plus court terme. Donc il faut... Et là, on est toujours au pied du mur, alors même qu'il faut agir sur le moyen terme et sur le long terme quand il s'agit de finances publiques.
Alors, vous dites que justement la procédure budgétaire n'a pas vraiment évolué, qu'elle est chronophage et déresponsabilisante. Hier, François Bayrou, à l'issue du comité d'alerte, a proposé d'associer davantage les parlementaires, bien en amont de la présentation du budget à l'automne, d'annoncer les grands choix du budget avant l'été. Est-ce que c'est une réponse adéquate ?
Il faut déjà partager le constat sur une situation de nos finances publiques qui est effectivement dégradée. Mais est-ce que nous pouvons être le seul pays à être en décalage, comme ça, avec les autres pays, notamment de l'Union européenne ? Quand vous regardez les grands indicateurs, au niveau des impôts et taxes, au niveau de la dépense publique, nous sommes parmi les pays qui prélevons le plus et qui dépensons le plus. En revanche, quand il s'agit de présenter la France dans des tableaux où on mesure l'efficacité, l'efficience de la dépense publique, on est rarement sur le podium. Donc ça doit interroger. Bon, où est l'erreur ? Bon,
alors,
ça montre bien, il faut interroger une fois de plus la pertinence de nos politiques publiques. Je prends les niches fiscales. J'ai vu que la ministre des Comptes publics là, évoquait ce sujet-là. Après la LOLF et après des mesures d'encadrement de la dépense budgétaire, on a détourné en fait cet encadrement par la multiplication de niches fiscales, dont la pertinence, effectivement, pourrait être remise en cause pour un certain nombre d'entre elles. Voilà, donc à chaque fois, on essaie de contourner l'effort pour, ne pas prendre de décision. Il y a beaucoup de démagogie, un manque d'esprit de responsabilité quand il s'agit de nos finances publiques.
Et on terminera par ces mots. Merci Didier Migaud, ancien premier président de la Cour des comptes, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Marie Viennot.
Un vote sans suspense, mais pas sans critique.
À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, les quelques 16 000 adhérents écologistes sont appelés à voter pour choisir leur chef. Or, à 38 ans, Marine Tondelier ne fait pas mystère de sa certitude d'être réélue, et sans doute même dès le premier tour.
De nouvelles attaques ont ciblé la nuit dernière l'institution pénitentiaire avec notamment l'incendie de 3 véhicules dans un parking sécurisé de la prison de Tarascon.
Des incidents qui interviennent au lendemain d'attaques coordonnées contre plusieurs établissements, principalement des incendies de véhicules donc, mais aussi des tirs à l'arme automatique, en particulier contre la porte de la prison de Toulon, tirs qui n'ont pas fait de victimes. Alors la justice étudie toutes les pistes possibles. Florence Thurme, bonjour.
Bonjour.
Cette attaque semble d'ores et déjà assez exceptionnelle, moins d'ailleurs par les dégâts causés que par sa forme inédite et surtout sa signature, puisqu'à chaque fois de mystérieuses inscriptions ont été retrouvées, DDPF pour défense des droits des prisonniers français. Que sait-on, Florence, de ce groupe?
Alors, beaucoup de questions autour de ce groupe qui n'avait encore jamais fait parler de lui et dont on découvre l'existence il y a 48 heures sur la messagerie cryptée Telegram, en même temps que les inscriptions laissées sur les lieux des délits. DDPF pour défense des droits des prisonniers français, c'est ainsi qu'il se présente sur Internet en précisant « Sachez que nous ne sommes pas des terroristes », mais en publiant des vidéos et des menaces très explicites contre les agents de la pénitentiaire, chez qui l'inquiétude grandit, confirme Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat FO Justice.
Sur ce groupe, il y avait des appels à tuer du surveillant, à faire démissionner les surveillants. Il y avait des vidéos. Toutes les attaques qui ont été faites depuis dimanche étaient filmées sur ce groupe Telegram. La mise à feu à l'école nationale d'administration pénitentiaire, à Aix, même le véhicule qui a été brûlé au domicile de l'agent. On voit même des photos et des noms de collègues et des appels au meurtre très clairement. Ces messages ont été supprimés sur Telegram. Donc voilà, il faut que la police, elle fait très bien son travail et je sais qu'elle avance pour savoir exactement qui se cache derrière tout ça, afin qu'on puisse arrêter ces personnes. Nous, on sait qu'on fait un métier à risque, mais désormais, même à la maison, on est en danger.
Alors, qui se cache derrière ce groupe à ce stade de l'enquête reprise par le PNAT, le parquet national antiterroriste, qui coordonne les investigations menées par la sous-direction antiterroriste et la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure? Toutes les hypothèses restent ouvertes dans un contexte qualifié d'inédit par le PNAT. Contexte politique également, marqué par le durcissement de la politique pénale. Gérald Darmanin a ainsi immédiatement pointé la responsabilité des narcotrafiquants hier, avant de se montrer beaucoup plus mesuré, car la piste de l'ultra-gauche est aussi très sérieusement explorée. Certains, parmi les syndicats de la pénitentiaire, évoquent même une mainmise de l'étranger comme une troisième possibilité, preuve que l'incertitude reste importante alors que l'enquête se poursuit. Pour l'heure, elle n'a encore conduit à aucune interpellation.
Merci Florence Sturme. Après l'annonce dimanche dernier de l'expulsion de 12 agents consulaires français par les autorités algériennes, hier Paris annonçait à son tour l'expulsion de 12 diplomates direction Alger. Alors, compte tenu des relations chaotiques entre les deux pays liées par une histoire commune douloureuse, il est difficile de parler ici d'une dégradation des relations bilatérales. Sans doute faut-il y voir surtout la confirmation que l'accalmie que certains avaient cru entreapercevoir il y a quelques jours n'était que le prélude à un énième coup de froid. Reste toutefois une inquiétude liée à l'incarcération de Boualem Sansal, lequel a fait appel de sa condamnation. L'écrivain franco-algérien n'a pas à faire les frais des tensions entre les deux pays, a précisé ce matin le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.
Porté par une hausse de ses exportations, l'économie chinoise a mieux résisté que prévu au premier trimestre.
Plus 5,4%, alors bien entendu c'était avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Or les dégâts causés récemment par la guerre commerciale initiée par Donald Trump pourraient rapidement mettre un terme à cette éclaircie. D'où la tournée d'ailleurs en ce moment même du président Xi Jinping en Asie du Sud-Est pour se faire l'apôtre du multilatéralisme et tenter de préserver au mieux l'ordre commercial existant, comprenez celui de la globalisation dont la Chine aura été le principal bénéficiaire depuis maintenant un quart de siècle. En attendant, Pékin continue malgré tout à multiplier les leviers de pression géostratégiques vis-à-vis de Washington. Après avoir déjà instauré des contrôles sur ses exportations de terres rares, la Chine vient d'ordonner à ses compagnies aériennes de suspendre toute réception d'avions du constructeur américain Boeing. Les précisions de notre correspondant Sébastien Berriot.
C'est certainement la mesure de représailles la plus forte de Pékin depuis le début du bras de fer commercial avec Donald Trump. La Chine a décidé de frapper là où ça fait le plus mal. Boeing, c'est le premier exportateur américain qui est visé. L'avionneur se voit privé d'un marché essentiel. Les trois principales compagnies chinoises, dont Air China, avaient prévu de recevoir plusieurs dizaines d'appareils d'ici 2027. Tout ça est remis en cause. Et pour bien comprendre ce que Boeing s'apprête à perdre, il faut citer un chiffre, Un milliard de Chinois n'ont à ce jour jamais pris l'avion. Avec le développement du pays, ce sont autant de futurs passagers potentiels. Et d'ici 10 ans, les experts estiment que le marché aéronautique chinois sera le premier au monde. Mais est-ce que la Chine pourra réellement se passer de Boeing? Pas si sûr. Airbus n'a pas les moyens de répondre à cette croissance. Et quant à l'avion chinois, le C-919, il n'en est qu'à ses tout débuts.
Alors le groupe aéronautique Boeing n'est pas le seul à faire les frais aujourd'hui de la bataille engagée par Donald Trump, puisque le géant américain des puces Nvidia a lui annoncé que les nouvelles restrictions à l'export de semi-conducteurs vers la Chine allaient lui coûter 5,5 milliards de dollars de charges exceptionnelles. Et c'est ainsi qu'hier, à l'occasion de son tout premier discours public depuis qu'il a quitté la Maison Blanche, Joe Biden s'est livré à une attaque en règle de son successeur. Tant de dégâts et tant de destruction, a dénoncé l'ex-président. Et de fait, nombreux sont ceux à s'interroger sur les annonces aussi intempestives qu'agressives du milliardaire républicain. En clair, son objectif stratégique visant à terme à déprécier le dollar à l'avantage des États-Unis justifie-t-il de placer constamment le pistolet sur la tempe de ses partenaires sans garantie aucune de réduire sensiblement à terme le déficit commercial, et avec le risque surtout que, contrairement aux promesses de Donald Trump, ce soit les Américains qui en fassent les frais les premiers. Quoi qu'il en soit, voilà déjà plusieurs semaines que les élus républicains eux-mêmes se font effectivement chahutés par leurs électeurs, au point qu'ils avaient même reçu la consigne de ne plus organiser de réunions publiques, tant l'image renvoyée était désastreuse. Alors ça n'a pas empêché l'une des élues les plus proches du président américain, la députée de l'État de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, de vouloir tenter l'expérience hier soir dans son district, avec toutefois des consignes très strictes, puisque la contestation n'y était tout simplement pas tolérée. Reportage à Oakwood, signé de notre envoyé spécial Marie Mollet.
Marjorie Taylor Greene avait commencé sa réunion publique avec un avertissement. C'est une réunion publique, pas une manifestation. Si vous voulez vous lever pour protester, crier, on vous fera sortir. Et en effet, une dizaine de participants ont été escortés vers la sortie par la police. D'après plusieurs journalistes présents dans la salle, deux d'entre eux ont résisté et ont été tasés. Mike, lui, a été évacué. Nous l'avons croisé à la sortie. Elle a commencé en disant que les démocrates étaient le parti de la violence. C'est là que je me suis levée et j'ai dit « c'est faux ». Elle m'a répondu « alors vous pouvez partir ». Un officier de police est venu et m'a escorté. Je n'ai pas résisté. Même récit avec Hayley, électrice indépendante, dit-elle. C'est effrayant le nombre de personnes qu'ils ont traînées dehors. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Ce n'était pas une réunion publique. C'était elle qui nous faisait la leçon. Martin, électeur républicain, lui reprend la rhétorique de Donald Trump. Ils ont probablement été payés par des militants démocrates des ONG. Affirmation sans preuve. Marjorie Taylor Greene, elle, s'est dit satisfaite de la réunion.
Un reportage à Oakwood, signé Marie Mollet.
Après plus de 3 années de discussion, l'OMS a finalement trouvé la voie pour préparer le monde aux pandémies.
Les membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont entendus sur un projet d'accord historique. Alors le terme est souvent sujet à caution, c'est vrai, surtout lorsqu'il s'agit de démontrer l'engagement de toute la communauté internationale. Et le fait que plusieurs pays auront cherché jusqu'au dernier moment à rouvrir des divisions. Précisons par ailleurs que le texte devra encore être validé formellement le mois prochain. Toujours est-il qu'à l'avenir donc, 10% des volumes de tout vaccin ou toute technologie contre les pandémies devront être donnés rapidement à l'OMS. Explication depuis Genève du correspondant de RFI pour France Culture, Jérémy Lanche.
Les négociations ont failli capoter sur un sujet, le partage des technologies entre pays riches et dotés de grands groupes pharmaceutiques capables de trouver des vaccins et des traitements, et les autres contraints de demander l'autorisation pour les produire. Il aura fallu attendre 1h du matin pour aboutir à un compromis qui amènera plus d'équité, selon les mots de Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS, fatigué mais heureux au moment de boucler la réunion.
Normalement, il faut 10 ans ou plus pour aboutir à un texte de ce genre. Ensemble, vous vous êtes unis dans un même objectif, protéger l'humanité. Vous avez marqué l'histoire et démontré le pouvoir de la collaboration entre États.
Et en louant le pouvoir du multilatéralisme, le docteur Tedros se permet même un pied de nez aux États-Unis qui ont claqué la porte de l'OMS, facilitant, c'est vrai, les débats, mais affaiblissant aussi le futur traité si Washington n'en fait pas partie. Et il faut encore que tous les autres le respectent, explique pour MSF Mélissa Schwarz. Harvey.
Si les gouvernements n'appliquent pas les dispositions prévues, ce ne sont que des mots. Il faut que le texte se traduise par des actions. Seulement, à ce moment, si une nouvelle pandémie se déclare, on pourra dire qu'on est mieux préparé.
Reste maintenant à adopter formellement le traité. Ce sera, si tout se passe bien, le mois prochain, lors de l'Assemblée mondiale de la santé.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Pluvieux des Pyrénées au Grand Est. Ciel plus clément, en revanche, dans l'Ouest et le Nord. Quant aux températures, elles sont comprises entre 11 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Carline Desrosiers. À 18h, vous avez rendez-vous avec Mélanie Kuzilevitch pour le prochain journal de la rédaction.